Laïcité ou guerre des dieux, l'heure du choix. Voilà un titre provocateur. Que vise-t-il? Une formule utilisée par Max Weber pour désigner les conflits possibles entre les communautarismes religieux. La laïcité est évidemment le plus beau et le plus efficace des remparts contre deux maux historiquement repérables. Le premier a sévi pendant 15 siècles, le cléricalisme, qui est le fait non de la religion comme libre spiritualité, mais de la religion comme volonté de dicter la politique. Ce que Spinoza appelait le théologico-politique, c'est-à-dire quand à partir d'une conviction spirituelle déterminée, on prétend dicter la loi à tout le monde. On a vu encore lors de la manifestation pour le mariage pour tous et la contre-manifestation contre le mariage pour tous que d'ailleurs, de façon inexacte, les cléricaux baptisaient le mariage homosexuel, alors que la réforme porte sur le mariage pour tous. Autrement dit, il s'agit d'émanciper le mariage comme structure relationnelle durable de sa version judéo-chrétienne tournée vers la procréation, ce qui implique une certaine conception réductrice de la sexualité, et en même temps exclusivement hétérosexuel. Dans l'idée d'un mariage pour tous, il n'y a pas le rejet du mariage traditionnel, mais son intégration comme un cas particulier d'un mariage qui s'élève à l'universel. Or, on a vu des catholiques intégristes descendre dans la rue, instrumentaliser les écoles privées sous contrat d'association, où au nom du caractère propre, on embrigade les enfants dans une conception religieuse alors qu'on dispose des fonds publics, ce qui est évidemment une énorme anomalie, et je souscris à l'idée que la France n'est pas encore à 100% laïque. Elle n'a évidemment aucune leçon à donner quand on pense que les trois départements d'Alsace-Moselle sont encore sous régime concordataire, qu'il y a un réseau d'écoles privées financées sur fonds publics, il y a de grands déficits de la laïcité en France. Mais les derniers moments que nous venons de vivre en France ont été caractéristiques. Nous avons vu des gens partisans du mariage traditionnel judéo-chrétien tourné vers la procréation et exclusivement hétérosexuel se dresser contre l'idée que d'autres puissent donner du mariage une autre version. Deux homosexuels s'aiment durablement. Ils veulent fonder une union durable, un couple, ils veulent se marier. Ils n'imposent pas aux hétérosexuels traditionnellement voués à la procréation d'adopter leur formule. Ils représentent une nouvelle version. On a là l'exemple de l'universalisme laïque. Dans la structure laïcisée du mariage dit pour tous, le mariage traditionnel peut prendre sa place, il en est une des versions. Et donc, effectivement, ce qui se passe là, c'est de nouvelles figures de la contestation de la laïcité. Alors ça, c'est à repenser, effectivement. Tout à l'heure, Véronique évoquait aussi l'utilisation abusive du concept de liberté religieuse. Le seul concept qui soit conforme à la laïcité, c'est le concept de liberté de conscience. On pourrait dire liberté spirituelle si le mot spirituel désignait l'ensemble des convictions possibles. Dans la liberté de conscience ou liberté spirituelle, il y a la liberté de l'humaniste athée, de l'humaniste agnostique ou du croyant d'affirmer sa conviction. Par conséquent, là, il y a une lutte qu'ont menée les cléricaux pour faire prévaloir le concept de liberté religieuse sur le concept de liberté de conscience. Mais c'est une restriction. Est-ce qu'on parle de liberté athée? Non. La liberté de conscience est plus générale. Et quand on énonce un principe qui veut valoir comme loi, il faut remonter au plus général. Or, le concept le plus général, c'est le concept de liberté de conscience, dont la liberté religieuse n'est qu'un cas particulier. La liberté d'avoir une religion doit être reconnue, mais elle n'est qu'un cas particulier de la liberté de la conscience humaine qui se porte vers la conviction religieuse, tout comme elle pourrait se porter vers la conviction athée ou agnostique. Donc effectivement, il y a une bataille des mots à mener qui est très importante. Mais ce n'est pas exactement ce dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, mais c'est d'un petit peu autre chose. Les interventions précédentes ont toutes posé le problème du couplage entre laïcité et justice sociale. Et je crois qu'aujourd'hui, pour défendre la laïcité, il faut faire comme Jean Jaurès. Il faut défendre en même temps la justice sociale. Pourquoi ? Parce que nous vivons le troisième âge du capitalisme. Le premier âge du capitalisme, comme vous savez, c'est l'âge du capitalisme voué à ces esprits animaux. On envoie les enfants pousser les wagonnets, comme le rappelle Zola. On les envoie travailler, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, disait Victor Hugo. Et l'on produit la richesse en créant la misère. Dans Mélancolia, Victor Hugo s'interroge sur ce système économique, le capitalisme des origines, qui, dit-il, vous reconnaissez son art de l'alexandrin, qui produit la richesse en créant la misère. C'était vrai au XIXe siècle, mais n'est-ce pas vrai aujourd'hui? On a vu réapparaître à Paris des sans-domicile fixe, des mendiants. Tout récemment, deux hommes se sont immolés par le feu devant les agences Pôle emploi. Un 30e salarié de France Télécom s'est suicidé parce qu'il ne supporte plus le chantage au chômage. Madame Parizeau, grande Manitou du MEDEF, s'est indignée que l'on puisse envisager une amnistie pour les syndicalistes qui ont cassé quelques vitres par désespoir. Mais, Madame Parizeau, vous ne cassez pas des vitres, vous cassez des hommes. Vous les conduisez au désespoir. Et ce désespoir est toujours pas très bon conseiller. Victor Hugo, qui était légaliste républicain, assiste à des débordements en juin 48 de ces ouvriers qui n'ont pas de travail et qui réclament un travail le gourdin à la main. Victor Hugo dit : peut-on se contenter de la loi ? On condamne, certes, mais on a une amertume dans la conscience parce qu'on se dit que quelque part, ces personnes qui dérapent ont un peu de droit de leur côté. Il est trop facile de rappeler à la loi quand la loi consacre des inégalités et une certaine servitude. C'est Karl Marx, dans Le Capital, qui ironisait sur le marché capitaliste, Éden des droits de l'homme. Mais il le disait évidemment par dérision. Quelle est la liberté d'un chômeur en fin de droit de ne pas signer le contrat de travail qui organise sa servitude? Elle est, en principe, totale. Monsieur, les clauses de ce contrat ne vous conviennent pas, mais vous êtes libre de ne pas signer. On sait bien que ce rappel est une mystification, parce que si ce chômeur en fin de droit doit payer un loyer, assurer la scolarité de ses enfants, il n'est pas libre de ne pas signer. Autrement dit, une contrainte socio-économique prend l'apparence d'une liberté. Et ça, c'est grave. Quand les grands principes républicains se mettent à mentir, ou du moins paraissent mentir, parce que les pratiques sociales semblent les dessaisir de leur vérité. Et c'est ce problème que nous vivons. Et quand on dit à des citoyens d'origine maghrébine qui se reconnaissent sans doute dans l'islam, respecter la laïcité, respecter la liberté et l'égalité, mais qu'ils sont victimes de la discrimination à l'embauche, parce que quand ils remplissent un curriculum et qu'ils écrivent Mohamed, et qu'ils écrivent qu'ils habitent dans le 93 et que, comme par hasard, ils n'obtiennent pas l'entretien d'embauche. Comment la laïcité républicaine peut-elle être perçue si eux vivent dans l'effectivité des pratiques sociales qu'ils sont exclus? Marx encore, 1848, manifeste du Parti communiste. La mondialisation capitaliste a tout noyé, je cite, dans les eaux glacées du calcul égoïste. La modernité démocratique, laïque et républicaine n'est-elle pas aujourd'hui connotée négativement par ceux qui sont victimes d'un capitalisme décomplexé? Le premier âge du capitalisme était le capitalisme sans loi ni normes. Enrichissez-vous, s'écriait Guizot. Hugo répondait : quel est ce système qui produit la richesse en créant la misère ? Car il y a des façons de s'enrichir qui ne sont pas innocentes. Quand elles s'assortissent de la misère et de la pauvreté, l'enrichissement est coupable. C'est clair. On l'a vu avec la crise des subprimes, qu'on fait payer aujourd'hui au peuple en prétendant réduire les dépenses publiques à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne. Demain, sans doute, à la France, parce que je ne vois pas pourquoi on serait une exception hors du lot. On commence déjà à parler de réduire les dépenses de santé, d'instruction. C'est-à-dire qu'il y a là véritablement quelque chose d'extrêmement grave. Ce capitalisme décomplexé, qui depuis la fin des Trente Glorieuses est devenu le troisième âge du capitalisme. Vous savez que le deuxième âge, c'est l'âge du compromis social, qui est résultat des luttes ouvrières pour imposer au capitalisme des normes qu'il ne respectait pas spontanément. Premier âge, l'ultralibéralisme, parce qu'il n'y avait pas encore de loi. Deuxième âge, le capitalisme qui est obligé de compenser, faire un compromis avec les exigences humaines qu'il ne reconnaissait pas spontanément. Et troisième âge, ce capitalisme mondialisé décomplexé qui prétend être l'horizon indépassable de notre époque et qui plonge des pans entiers de population dans le chômage et la misère en jouant sur l'inégal développement des droits sociaux. Le capitalisme rattrape par la géographie ce qu'il avait perdu par l'histoire. Par l'histoire, en raison du mouvement ouvrier, il avait perdu la faculté d'exploiter sans normes ni limites. Par la géographie, en délocalisant, il brise les conquêtes sociales. Carlos Ghosn, PDG de Renault, dit « Il faut réduire le coût du travail, sauf le sien, bien sûr, 9 millions d'euros par an. » Il dit aux ouvriers de Renault France « Réduisez vos salaires, sinon je vais délocaliser à Valladolid en Espagne. Mais j'ai appris par mes amis espagnols qu'il dit aux ouvriers de Valladolid « Réduisez vos salaires, sinon je délocalise en Roumanie. » Pourquoi M. Carlos Ghosn ne laisse-t-il pas la place à un PDG roumain? Voilà la question qu'on pourra poser, parce que cette modération salariale, il l'impose aux ouvriers, ne se l'impose pas à lui-même. Jamais l'écart entre les revenus du travail et les revenus du capital n'a été aussi important. Pourquoi rappeler ce qui peut paraître hors sujet par rapport à la laïcité? Parce que il faut penser ce qui fait que le religieux peut en quelque sorte représenter une sorte de supplément d'âme d'un monde sans âme. La formule est de Marx dans la critique du droit politique hegelien, où il explique que la religion peut jouer le rôle d'un supplément d'âme d'un monde sans âme, le soupir de la créature opprimée, l'opium du peuple. Et quand Marx dit l'opium du peuple, c'est pas forcément uniquement négatif, car l'opium a une double vertu, sédative, curative, mais aussi, évidemment, une vertu d'exil dans l'imaginaire. En tant qu'exil dans l'imaginaire, il est mystificateur. En tant que sédatif, il n'est ni mystificateur ni souhaitable, il pense les plaies. Mais évidemment, pour Marx, il faut qu'on prenne le problème ici-bas et qu'on ne cherche pas à le reporter dans un au-delà. Comme disait Atahualpa Yupanqui, non solo queremos ser iguales en el cielo, pero también en la tierra. Nous ne voulons pas seulement être égaux dans le ciel, mais aussi sur terre. Et la grande question aujourd'hui de la religion, ou plutôt du cléricalisme, c'est sa prétention à jouir à nouveau d'un statut de droit public sous prétexte qu'elle remplirait un rôle caritatif qui lui donnerait la légitimité d'être reconnue publiquement. Madame Thatcher applique les recettes de Milton Friedman, grand ultralibéral par-devant l'éternel, école économique de Chicago. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Elle détruit le welfare state britannique, c'est-à-dire l'état social de droit. Elle mate la dernière grande grève des mineurs, mais elle encourage les associations islamiques à prendre le relais des services publics raturés dans les quartiers. Et comme Gilles Kepel l'a montré dans La Revanche de Dieu, c'est alors qu'on voit réapparaître des communautarismes religieux. Quel est le discours des chefs religieux ? C'est celui-ci. Vous avez voulu la démocratie, la modernité, le développement économique, la science. Regardez les résultats. Évidemment, l'amalgame est rapide et obscurantiste entre la science, la technique, la raison, d'une part, et ses mauvaises utilisations par le capitalisme d'autre part. Mais qu'importe, le diagnostic est là. C'est un diagnostic purement religieux. On en retrouve un écho dans Fides et Ratio, la dernière encyclique de Jean-Paul II, vraisemblablement rédigée à l'époque, en partie, par le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI. Que dit Fides et Ratio ? La raison est infirme. Elle reflète la part maudite de l'homme. La foi est nécessaire. Regardez ce qui se passe quand les hommes prétendent se passer de Dieu et de désigner les développements les plus déplorables de notre modernité, rejoignant ainsi un diagnostic obscurantiste. On a entendu des gens, au moment de la catastrophe de Fukushima, dire « la science est devenue folle ». Mais non, faute de diagnostic, ce n'est pas la science qui est folle. C'est la volonté de produire vite, pour gagner beaucoup d'argent, qui fait que TEPCO a construit sa centrale nucléaire en ne respectant les normes sismiques qu'à concurrence de l'échelle 7, alors que des tremblements de terre et des tsunamis à l'échelle 9 avaient été prévus. Donc là, c'est le capitalisme qui, par appât du gain, a produit cet effet. Mais qu'importe, l'obscurantisme théologique va conduire à incriminer la science, la technique, la raison et pourquoi pas la laïcité. C'est Marcel Gauchet qui, dans le Désenchantement du monde, suggère que la laïcisation des sociétés aurait entraîné le reflux de l'idéal, le reflux de la norme morale, le nihilisme et effectivement le reflux dans le relativisme. Alors il nous faut nous battre sur deux fronts. Si on ne veut pas que la guerre des dieux entre communautés repliées sur leurs traditions les plus régressives ne prennent la place d'un monde commun à tous les hommes. Il faut effectivement reprendre le diagnostic de Max Weber quand il parlait du risque de la guerre des dieux. Le risque de la guerre des dieux, on peut l'interpréter comme le risque du repli communautariste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les printemps arabes dérivent ou risquent de dériver ? La formule est convenue, c'est devenu un cliché en hiver islamiste. Mais nos amis tunisiens, j'étais à Tunis il y a 2 semaines pour apporter un geste de solidarité au camp laïque très éprouvé par l'assassinat de Chokri Belaïd. le chef, le responsable du Front populaire et laïque tunisien. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie ? Il se passe en Tunisie le risque d'un dérapage vers une sorte de communautarisme religieux. On dénonce l'Occident, mais on dénonce pêle-mêle l'Occident colonisateur et la science, la technique, la laïcité. Nous avons affaire à ces amalgames obscurantismes qu'il va nous falloir combattre par les vertus de la raison, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut aussi combattre par la justice sociale, car si le monde dans lequel nous vivons continue à sécréter le désespoir, parce que effectivement on désespère de ce monde, jamais nous n'avons produit autant de richesses, et pourtant il y a de nouvelles figures de la pauvreté. D'où cette désespérance à l'égard du monde dans lequel nous vivons. Et cette désespérance est mauvaise conseillère. Soit on a des travailleurs qui se suicident, comme les 30 suicidés de France Télécom, soit on a des gens qui refluent pour se tenir chaud dans des communautés qui réactivent des traditions régressives qu'elles n'auraient jamais pu réactiver si effectivement le monde était juste, s'il y avait ce couplage dont rêvait Jean Jaurès entre la laïcité, qui ne veut pas dire l'hostilité à la religion, mais le fait que la religion n'engage que les croyants, l'humanisme athée n'engage que les athées, mais la puissance publique qui doit faire vivre ensemble des athées et des croyants se doit d'être rigoureusement indépendante et de l'athéisme et de la croyance religieuse. N'hésitons pas à dire que l'Union soviétique stalinienne, érigeant l'athéisme en doctrine officielle, bafouait autant la laïcité que la Pologne catholique d'aujourd'hui imposant la prière publique dans les écoles. Et effectivement, le débat qui eut lieu sur l'Europe, dire que l'Europe n'a pas que des racines chrétiennes, elle a les racines de l'humanisme de l'Antiquité, elle a les racines du rationalisme du XVIIe siècle, elle a les racines de la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, elle a pour racine la philosophie sociale du XIXe siècle, ce qui était abusif. Ce n'est pas le rôle d'une constitution d'abord, de toute façon, de dresser les sources spirituelles. Et si on veut en faire un livre d'histoire, eh bien qu'on cite toutes les sources, et pas seulement les racines chrétiennes. Les racines de l'Europe, nous le savons, sont multiples. Elles commencent à l'humanisme de l'Antiquité, et elles continuent au XIXe siècle avec la philosophie sociale qui voulait que les droits sociaux donne chair et vie aux droits politiques et juridiques conquis par la Révolution. Donc effectivement, nous avons, chers amis, beaucoup de défis à relever aujourd'hui. Nous avons à dire, premièrement, le diagnostic que certaines églises veulent faire des désordres de la modernité est faux. Ce n'est pas parce que la science, la technique et la raison sont mal utilisées que la science, la technique et la raison sont responsables des désordres de notre modernité. Ça, c'est le premier défi. Ne substituons pas un diagnostic de ressentiment à l'égard de la raison au vrai diagnostic qui est socio-économique. Que fait le capitalisme des conquêtes de la science et de la technique ? Ben, il n'en fait pas beaucoup de choses bonnes. En détruisant les droits sociaux, il fait désespérer les gens de la façon dont on utilise le progrès. On dit souvent que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Or, il n'est pas partagé par tous. Quand on sait que l'écart entre les revenus du travail et les revenus du capital n'a cessé de se creuser, eh bien, il est clair qu'il n'y a pas de fatalité du chômage. L'utilisation exclusive des gains de productivité pour accroître les dividendes au lieu de les répartir de façon humaine et équilibrée est une cause de désespérance sociale. Et la désespérance sociale peut nourrir, lorsqu'elle s'articule à des mauvais diagnostics, une régression obscurantiste. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il me semble que le combat laïque aujourd'hui doit vraiment de plus en plus se coupler avec le combat social. Ce couplage laïcité-justice sociale ne fait que répondre au couplage de la mondialisation capitaliste entre injustice sociale et supplément d'âme caritatif. Ce qui veut dire que la religion n'a rien à craindre du couplage laïcité-justice sociale. Jaurès, comme vraisemblablement, vous le savez, Victor Hugo, était déiste. Il cultivait l'idée d'une puissance suprême. On ne sait pas trop d'ailleurs comment il la concevait. Était-ce un dieu personnel transcendant à l'humanité ? Était-ce l'humanité elle-même comme être suprême ? Comme chez Auguste Comte, était-ce un cheminement de l'humanité ? Peu importe. Il y avait l'idée d'une transcendance qui était chez Hugo, comme il y en avait une sans doute chez Jaurès. Mais Hugo, qui disait « je veux l'État chez lui et l'Église chez elle », ne voulait pas que la religion devienne une politique. Il ne voulait pas qu'elle soit instrumentalisée. Il trouvait même que le cléricalisme était une corruption de la liberté spirituelle ou du témoignage spirituel religieux. Donc les religieux, lorsqu'ils cultivent leur spiritualité comme une libre spiritualité, n'ont rien à craindre de la laïcité. De la même façon, les humanistes athées n'ont rien à craindre de la laïcité. Il ne faut pas confondre laïcité et athéisme, c'est évidemment très clair, mais il ne faut pas non plus confondre laïcité et laïcité ouverte aux privilèges des religions. Adjectiver la laïcité, vous le savez, c'est déjà préparer sa destruction. Car à quoi voulez-vous que la laïcité s'ouvre ? À la restauration des privilèges publics des religions ? On a un ministre français qui s'appelle Manuel Valls qui a osé inaugurer la mosquée de Strasbourg, financée pour 25% par des fonds publics grâce au Concordat, qui disait que le Concordat était une très bonne chose. Non, monsieur Valls. Le Concordat qui contraint toute la République française à payer les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs est un détournement de l'argent public à des fins particulières. Si l'origine de l'argent public payé par l'impôt est universelle, sa destination doit être universelle. C'est un principe simple de la laïcité. Et quelle est la destination universelle ? La santé, la culture, l'instruction. La religion n'est pas une destination universelle, c'est une destination particulière. Et les religions n'ont rien à perdre à cette dévolution universelle des deniers publics. Car si un religieux tombe malade, et qu'il est accueilli dans un hôpital public où il ne paie pas ses soins parce que le service public de santé prendra en charge ses soins, on peut considérer qu'il économise de l'argent par rapport à l'hypothèse où il devrait payer ses soins et les payer fort cher avec les dépassements d'honoraires. Donc effectivement, la vraie solution, elle est sociale. Déficit des lieux de culte pour les citoyens d'origine musulmane, c'était vrai il y a 15 ans en France, c'est faux aujourd'hui. Il y a des mosquées à Paris qui sont à moitié vides. Et le recteur de la grande mosquée de Paris, Dalil Boubaker, disait que si on fait deux services de prière, comme jadis, il y avait deux messes le dimanche dans les églises, eh bien, il y a de la place pour tout le monde. Mais même si les citoyens de confession musulmane, je ne dis jamais les musulmans, nulle personne ne se réduit à son appartenance religieuse. Les citoyens de confession musulmane, s'ils sont soignés gratuitement, s'ils jouissent d'un soutien scolaire pour leurs enfants gratuit, parce que dans les communes, on va consacrer l'argent public à faire des services de soutien scolaire gratuit, ils économisent de l'argent sur la santé, sur la culture. Eh bien, ceux qui le veulent, 16% d'entre eux, d'après les enquêtes, les autres vivant leur religion sans forcément fréquenter un lieu de culte. Mais les 16% qui veulent consacrer de l'argent à se réunir pour financer un lieu de culte le pourront d'autant mieux que la puissance publique aura assumé la question sociale, mais elle ne les assume plus, les questions sociales. Le dépassement d'honoraires catastrophique en France, qui fait que la plupart des soins maintenant sont assortis de dépassement d'honoraires, parce qu'il y a une privatisation larvée de la santé, parce que les services publics sont détruits graduellement au nom d'un capitalisme qui estime que la dépense publique est une mauvaise chose, eh bien, on est dans une phase où la destruction tendancielle des services publics rend l'accès aux soins et à la culture de plus en plus précaire. Il faut donc reconstruire, et je terminerai par là, une république laïque et sociale. Il n'y a pas de fatalité à la destruction de la dette publique. Hugo Chavez, Cristina Kirchner, Rafael Correa ont montré le chemin en Amérique latine. On peut dire qu'une partie de la dette étant d'origine spéculative liée à l'irresponsabilité des banques, on n'a pas à la reconnaître. Pourquoi ne pas avoir cette audace ? Cristina Kirchner l'a eu et aujourd'hui l'Argentine va mieux. Quant au regretté Hugo Chavez, qui pour la première fois dans l'histoire du Venezuela a consacré les revenus du pétrole à faire des misiones salud, misiones cultura, misiones educación, et a sorti 5 millions de Vénézuéliens de la pauvreté, eux, ils nous montrent le chemin. Alors bien sûr, les sociaux-démocrates européens, de même que les Américains, n'arrêtent pas de calomnier Hugo Chavez, même au moment de sa mort, honte à eux. Mais il y a une possibilité de défataliser la tournure que prend notre monde, qui est une tournure à la fois antisociale et antilaïque. Il faut effectivement contester la prétendue fatalité des politiques qu'on nous impose. Il faut contester l'affirmation de Madame Thatcher, « There is no alternative ». Je dis à Madame Thatcher qui dit « There is no alternative », Tina, je réponds « Tata, there are thousands of alternatives ». Il y a des milliers d'alternatives. Les Américains d'Amérique latine nous l'ont montré. Il y a d'autres voies possibles par la conjugaison de la justice sociale et de la laïcité. Laïcité bonne pour les croyants comme pour les athées et les agnostiques, puisqu'elle reconduit la spiritualité à sa liberté spirituelle sans privilège temporel. D'ailleurs, un jour, je faisais la remarque à un évêque qui semblait crispé sur ses privilèges temporels. Je lui dis, mais finalement, vous doutez de votre Dieu ? Comment pouvez-vous dire ça ? Je lui dis, si, vous estimez qu'il a besoin d'un point temporel. Si votre Dieu est tout puissant, il n'a nul besoin de l'argent que vous réclamez pour les églises. Il pourra trouver les voies du Seigneur pour s'acheminer. Donc c'est paradoxal, alors que les églises se vident, les théologiens en France réclament toujours plus de privilèges publics. Vous avez vu comment ils se sont indignés en Alsace-Moselle quand M. Hollande, candidat, il ne l'est plus, donc il a tout oublié, quand M. Hollande disait « on va constitutionnaliser les deux premiers principes de la loi de 1905 ». Article 2 de la loi 1905, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Vous vous rendez compte ? Les ecclésiastiques d'Alsace-Moselle ont dit, ne salarie plus aucun culte, mais alors on va perdre nos salaires. Ils ont tout de suite protesté. Et le candidat Hollande, courageux mais pas téméraire, a dit, vous inquiétez pas, on va aussi constitutionnaliser les concordats d'Alsace-Moselle. Ne voyons pas qu'il introduisait ainsi dans la Constitution de la République française une incroyable contradiction, puisque si on constitutionnalise l'article 2 de la loi 1905, l'article 1, vous le connaissez tous, c'est la République assure la liberté de conscience, point, elle garantit le libre exercice des cultes. Article 2, la République ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Si on constitutionnalise le « ne reconnaît, ne salarie ni ne, subventionne aucun culte », on ne peut pas en même temps constitutionnaliser le concordat qui, lui, est un régime des cultes reconnus datant de Napoléon Ier et qui, au titre des cultes reconnus, charge la République de payer les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs. Donc, constitutionnaliser tout ça, c'eût été effectivement une contradiction. Alors, depuis, les experts du Parti socialiste, entre guillemets, en France, ont résolu le problème, on dira, on constitutionnalisera la loi 1905 et en même temps constitutionnalisera le caractère dérogatoire de l'Alsace-Moselle. Voilà le genre d'aberration auquel conduit le clientélisme électoral de ceux qui devraient défendre la laïcité, mais qui l'oublient aussitôt. Quant aux droits sociaux, effectivement, quant à la République sociale, je ne suis pas sûr qu'on puisse effectivement continuer à la défendre quand on s'incline sous les fourches codines d'une Europe ultralibérale qui a érigé en grand principe la concurrence libre et non faussée avec le TSCG qui a été reconduit. Voilà, je m'arrête là parce que je sens que mon président va me rappeler à l'heure du temps. Merci beaucoup de votre attention.